Bonjour, chers amis leaders en action et bienvenue dans le podcast L'optimisateur du leadership. J'espère que vous vous portez à merveille parce que moi je me porte super bien. Comment est-ce que tu vas, mon cher ami Herman Kapo?
Je vais très bien, Corneille. C'est un vrai plaisir pour moi d'être en ligne avec toi pour ce premier numéro hein, de notre podcast, L'optimisateur du leadership en version française.
Ben, le plaisir est partagé, Herman. Et dans ce podcast, nous allons discuter des trois défis à relever pour assurer la pérennité de son entreprise. Est-ce que tu peux un peu introduire sur ce sujet, mon cher Herman?
Alors, l'une des choses qu'on a pu constater à DHSC Group, donc que je rappelle, nous sommes une entreprise dont la vocation essentielle est d'aider ceux qui le désirent à continuer de développer leur potentiel, et surtout d'accélérer leur capacité de croissance et de généralisation de la performance dans leur vie à divers niveaux, leur vie personnelle, privée, dans la construction de leur organisation. Donc, nous parlons ici des leaders. Il y a des gens qui s'échinent pour pouvoir bâtir une entreprise et on sait que ce n'est pas une aventure facile. Au départ, nous faisions ce travail, on travaillait plutôt à aider des gens qui avaient des idées à pouvoir structurer ces idées et à créer des entreprises.
D'accord.
Au fur et à mesure que nous évoluions, alors que nous pensions que les gens que nous avions besoin d'aider, ce sont les gens qui avaient besoin de créer leur propre entreprise, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ceux qui ont plus besoin de nos services d'information, de formation et de coaching, ceux qui en ont plus besoin, ce sont plutôt les gens qui ont déjà réussi, qui ont déjà créé une entreprise, mais qui ont besoin de structurer et d'assurer les bases de la pérennisation de ces entreprises ou organisations. Okay. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a de nouveaux défis qui se présentent. Et ce sont ces trois défis-là dont nous allons pouvoir discuter au cours de ce premier numéro de notre podcast Connect.
Mais c'est super. Je suis sûr que nos auditeurs doivent déjà avoir l'eau à la bouche. Le premier sujet, le premier point que nous allons aborder, c'est le défi des résultats significatifs. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on veut dire par le défi des résultats significatifs?
Alors, la plupart du temps, nous perdons de vue que le succès est un cheminement. Le succès, c'est de la construction. Il y a ce que nous appelons HEC, la psychologie de la construction du succès. On ne réussit pas parce qu'on a juste un rêve. On réussit parce qu'on sait que la capacité à réaliser son rêve passe par des étapes précises, passe par la réalisation de conditions précises. Et la première condition qui permet effectivement de pouvoir réaliser un succès, de bâtir un succès durable, que l'on soit un leader de façon générale ou surtout un entrepreneur, un bâtisseur d'entreprise, puisque c'est ce dont nous parlons ici, c'est qu'il faut commencer par comprendre que c'est sa capacité à se programmer, à se reprogrammer, à s'aiguiser personnellement, à se préparer personnellement pour s'aligner sur les phases du succès, pour remplir les conditions du succès, pour pouvoir produire des résultats qui soient significatifs, qui soient de classe internationale. C'est le premier défi que l'on a à relever. Alors, quand il est question pour nous de pouvoir travailler à relever ces défis de production de résultats significatifs, et quand je parle ici de résultats significatifs, il faut plutôt voir des résultats qui sont comparables, non à ce qui se fait dans mon village, non à ce qui se fait dans ma petite contrée provinciale, non ce qui se passe dans mon petit pays, non ce qui se passe dans mon continent, si on parle par exemple de l'Afrique, mais plutôt des niveaux de résultats qui se produisent au niveau international. Le défi de la production, de la réalisation des résultats significatifs ici, est un défi de production des résultats de classe internationale. On dit souvent qu'une personne pourra dire qu'elle a réussi, qu'elle a produit quelque chose de valable. Lorsque cette personne, comparant un petit peu ce qu'elle a réalisé à ce que les gens font au niveau international, lorsqu'on prend les 5 premiers de son domaine, cette personne peut clairement dire « Ben oui, je fais partie des 5 premiers de mon domaine au niveau régional, au niveau international, au niveau mondial. » Et celui qui veut produire, créer du moins une entreprise qui soit durable, doit pouvoir alors expérimenter des formules, doit pouvoir expérimenter des méthodes, doit pouvoir déployer des plans et des stratégies qui lui permettent de produire le type de résultat qui soit assez significatif et qui apporte de la valeur sur la durée à ses clients et à ses ayants droit et à ses bénéficiaires. Donc, tant que je n'ai pas travaillé à m'assurer de ce que les résultats que je produis sont de niveau et de classe internationale, donc je n'ai rien fait d'extraordinaire, de significatif, d'attractif, qui apporte réellement de la valeur aux gens et qui et qui fera que les gens vont dire, bah, tiens, c'est quelque chose qui a été intéressant pour nous il y a 10 ans, c'est quelque chose qui a été significatif pour nous et qui avait eu de la valeur pour nous il y a 10 ans. Le monsieur, il a su travailler, l'entrepreneur en question, le chef d'entreprise en question, il a su travailler pour que constamment, au fur et à mesure que le temps passe, nous voyons que ces résultats continuent d'avoir de la valeur. Parce que quand on parle de la pérennisation de son entreprise ici, c'est de produire le type de résultat et de créer le type de valeur qui non seulement vaut la peine aujourd'hui, mais vaudra la peine demain. Donc d'avoir le dispositif en place et de savoir se remettre en cause, de se reformer, de se refonder soi-même pour continuer d'être en mesure de produire des résultats qui soient valables. Comme on a l'habitude de le dire, hein, le succès d'hier ne garantit pas le succès d'aujourd'hui. Et c'est le travail que l'on fait aujourd'hui qui va garantir le succès de demain. Et c'est en travaillant, en nous assurant de ce que nous nous remettons en cause personnellement. Nous continuons à travailler sur nous-mêmes personnellement. Nous continuons à nous améliorer personnellement de manière à nous rendre capables non seulement d'avoir produit des résultats hier, de produire des résultats demain, d'aujourd'hui du moins, mais de produire des résultats demain. C'est ça qui fait la force d'un entrepreneur qui veut créer une entreprise durable. Connaît.
En t'écoutant, je vois que ce que tu dis est très profond parce que je remarque que nous avons un problème, un défi, un challenge ici en Afrique francophone avec le type d'entreprise que nous créons qui ont un succès, on n'a qu'à dire un succès dans le pays, mais le succès n'est pas continental, il n'est pas international, mais nous sommes satisfaits de ce type de succès-là. Et nous ne produisons pas des résultats qui sont significatifs, mais nous sommes satisfaits par le type de résultat que nous produisons. Peut-être parce que ce résultat est meilleur que celui qui est produit par d'autres personnes en Afrique. Je ne sais pas si tu vois de quoi je suis en train de parler.
Absolument, Corneille. Absolument, Corneille.
Ce qui fait qu'il y a un grand changement de mentalité à faire.
Absolument. Et c'est là que le défi se pose. Parce que on dit souvent que chaque village a sa miss, chaque village a sa plus belle fille, n'est-ce pas?
Oui.
Mais lorsque on fait un concours miss inter-village, il n'est pas évident que la miss d'un village puisse gagner au niveau inter-village. Mais lorsqu'on passe au niveau district, on passe au niveau de la ville, c'est pas toujours évident que la miss d'un village puisse être portée là-bas. Donc, c'est comment on fait pour s'assurer de ce que je suis dans un village, je suis dans mon pays, mais je m'assure de ce que je m'aligne sur les critères internationaux, de manière à ce que lorsqu'on va arriver au niveau continental, on va arriver au niveau international, j'aurai de la valeur. Parce que, à un moment donné, ce que nous devons comprendre, c'est que quand je n'utilise pas les formules internationales, je n'utilise pas les stratégies internationales, je ne m'assure pas de ce que mes résultats s'alignent sur ce qui se fait au niveau international. Lorsque les gens qui sont au niveau international vont venir alors dans mon pays, ils vont me rendre insignifiant. C'est ça le challenge. Le challenge aujourd'hui, c'est que la plupart des gens bâtissent, en guillemets, des succès, mais en utilisant des critères locaux. Et quand ils doivent entrer en compétition avec des gens qui sont qui excellent au niveau international et qui viennent dans le pays, supposons par exemple que je suis au Bénin ou bien au Sénégal et j'ai créé un niveau de succès donné, eh bien, au départ, puisqu'il n'y a personne dans mon entourage et dans mon environnement national immédiat qui produit le même type de résultat, donc je peux dire dans une certaine mesure que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Le challenge, c'est que à partir du moment où ceux qui s'internationalisent commencent à venir sur mon marché, utilisant des critères de classe internationale, ils vont rendre insignifiant mon succès.
Bien sûr.
C'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui réussissent à une certaine hauteur, à un certain degré, mais quand ils doivent avoir affaire à des gens qui viennent de l'extérieur, eh bien, ils n'arrivent pas à faire le poids, ils n'arrivent pas à faire la différence, et on les fait disparaître du marché. Donc, si je voudrais m'assurer de ce que mon succès doit avoir de la pérennité, il faudrait absolument que je m'assure de ce que je ne réalise pas un niveau, un degré de succès qui n'applique que les critères nationaux, mais qui applique des critères internationaux, de manière à ce que je puisse même aller rivaliser avec les gens avant que les gens ne viennent me chercher. Donc, en général, pour savoir si je suis en train de produire l'état de niveau international ou de classe internationale, c'est quand je vais à des conférences au niveau international. Et les gens disent, moi, je fais 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et toi, tu te rends compte que tu as fait 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Et donc, à partir de cet instant, tu dois relativiser ton succès et commencer par te dire, quelles sont les formules que j'utilise? Quelle est la bonne façon de penser et d'agir? Qui leur permet de faire 2 milliards de chiffre d'affaires? Parce que si tu vas à des endroits et tu rencontres des gens qui font 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc ce qui fait pratiquement 1 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, et que toi, quand tu dois parler de toi, tu dis que tu fais 10 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, oui, pour les gens de ton entourage, de ton pays, c'est extraordinaire. On va t'inviter sur les chaînes télé, c'est toi qui seras souvent à la une des journaux. Par contre, quand tu vas au niveau international, tu deviens insignifiant. Et quand les gens de niveau international viennent chez toi, ils te rendent insignifiant. Et ça qui est dû pour la plupart des gens. Et là, on est obligé parfois de faire sortir des critères de nationalisme pour dire « Ah non, on ne peut pas laisser les étrangers venir chez nous. » Mais qu'on le veuille ou non, les clients aujourd'hui ont accès à des marchés très ouverts, ont accès à l'international. Donc, si bien que si je ne produis pas des résultats au niveau national avec des critères internationaux, quand ils auront besoin de résultats de classe internationale, ils vont aller chercher des gens de classe internationale. Tu sais, connais l'une des choses qui se produit dans notre domaine tel que, comme la formation et le coaching, c'est que nous étions à un moment donné très frustrés de voir que les entreprises qui sont dans nos pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, au Maroc, quand il était question pour elles de trouver des formateurs, ils allaient chercher des formateurs à l'étranger. Et nous étions frustrés. Mais nous ne savions pas que c'est parce que les contenus que nous proposions n'étaient pas de classe internationale.
En effet.
Et aujourd'hui, maintenant que nous proposons des contenus de classe internationale, les gens sont prêts à nous sélectionner et à nous utiliser comme apporteurs de solutions, prestataires en formation et en coaching. Mais nous étions inutilement frustrés avant parce que, au lieu de vérifier si ce que nous faisions était de classe internationale, nous vérifions juste de voir est-ce que nous avons des gens, des femmes, des gens qui apprécient ce que nous faisons.
Ouais.
Quand les gens de votre entourage apprécient ce que vous faites, c'est bien. Mais c'est quand les gens de classe internationale apprécient ce que vous faites, que vous souhaitez que vous avez produit des résultats significatifs, et ça qui va assurer les bases de la pérennisation de votre affaire et de votre business. Voilà, collègue.
J'adore ce qu'on est en train de dire là, et je suis sûr que nos amis leaders en action, internautes qui nous écoutent, sont très ravis de ce qu'ils sont en train d'entendre. Passons au deuxième point, qui est le défi du système autonome. Donc, le défi de la création d'un système autonome. Quand j'entends système autonome, j'entends un système qui est en autopilote. Est-ce que c'est bien ça?
Effectivement. Tu sais, l'une des choses importantes, c'est qu'on dit d'une personne qu'elle a une entreprise lorsqu'elle a réussi à mettre en place une machine commerciale et financière à génération cyclique et spontanée de revenus qui puisse fonctionner, qui puisse être productive sans sa présence. Donc, ce qui veut dire que lorsque j'ai réussi à produire des résultats significatifs et que Forbes me fait appel et qu'on fait des articles sur moi dans Forbes, que CNN est venu faire des reportages sur moi, qu'on me voit sur France 24, que je suis interviewé sur RFI, c'est magnifique. Le challenge, c'est qu'à un moment donné, je me rends compte de ce que lorsque je voyage, l'efficacité et la performance de mon entreprise voyagent avec moi. Ce qui me dit que je ne laisse pas un système qui peut continuer de produire des résultats en mon absence. Et c'est l'un des gros défis des entrepreneurs africains et des leaders africains. Donc, personnellement, ils sont en mesure de faire de très, très grandes choses eux-mêmes. Mais quand il est question de pouvoir s'assurer de ce que leur entreprise fonctionne sans eux, ils ne sont pas à la hauteur. La plupart des entrepreneurs à succès au niveau africain que je connais, ce sont des gens qui, parfois, doivent être là pour que le salaire soit payé. Ils font parfois jusqu'à 50 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Le challenge, c'est que très peu de choses tournent bien sans eux. Ils sont entre plusieurs vols. Quand ils ont des entreprises dans plusieurs pays, et je peux te dire, Corneille, c'est quelque chose qui m'est arrivé, ils sont obligés d'être présents pratiquement dans tous les pays et ils font jusqu'à 10 voyages par mois. Et quand ils ne sont pas dans un pays, ça, quand ils arrivent dans un pays, on se partenait, quand les gens les voient, ils se mettent à produire du résultat, mais quand ils partent, le système est autonome. Et donc, le défi, si je veux assurer la continuité de la performance et de la production dans mon entreprise, déjà, c'est là que je dois m'assurer de ce que la formule que moi j'utilise et qui produit du résultat, je transforme ça en schéma de production des résultats pour les gens, que je les prenne et que je les forme par rapport à moi, que je puisse généraliser le génie que j'ai, qui fait que moi j'arrive à produire du résultat, je puisse généraliser ce génie-là. Et l'une des façons de le faire, c'est de ne pas penser que parce que je dis les choses aux gens, ils doivent pouvoir les faire. Ce n'est pas parce que je dis les choses aux gens qu'ils doivent pouvoir le faire. Monsieur Confucius, qui est l'un des grands philosophes de l'ancienne Chine, a l'habitude de dire que là, je pense, j'oublie, lorsque je vois, je me souviens, et quand je fais, je comprends. Ce qui veut dire que lorsque je veux créer un système autonome et que les gens puissent faire les choses, même lorsque je ne suis pas là, je dois pouvoir m'assurer de ce que les étapes à laquelle moi je passe et qui font que je réussis à bien faire le travail, je puisse décortiquer ça pour les gens, sous forme de manuel. Tu vas connaître lorsque ma tante au village, ma grand-mère au village, elle n'a jamais été à l'école. Le challenge, c'est qu'elle utilise son téléphone mobile. Pourquoi? Parce que ceux qui fabriquent le téléphone table ont réussi à fabriquer ce qu'on appelle une interface, à mettre une interface utilisable par même la personne la plus bérouine, la personne la moins outillée, la moins technicienne au monde. Exemple, ma grand-mère. Donc, ils ont créé l'interface pour qu'elle n'ait pas à casser la tête. Donc, créer ce système ici, c'est créer ce type d'interface-là, on appelle ça user-friendly, facile à utiliser pour mes collègues. Donc, moi, je me suis cassé la tête. Et par exemple, pour écrire un rapport, je me suis rendu compte que ce n'est pas facile pour moi, dès le premier mois, d'écrire le rapport. Par contre, il y a des étapes par lesquelles je suis passé. J'ai des modèles de rapport qui sont là. Je mets ces étapes, tu décris ces étapes à mes collègues. Et je leur dis qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque partie du rapport. Ensuite, il y a des modèles de rapport qui sont là, que je mets à leur disposition. À partir de là, ils peuvent regarder le schéma en main. Ensuite, s'inspirer de 3, 4, 5 différents de rapports que j'ai mis à disposition. Et là, il va être très facile pour eux de faire les rapports sans moi. Donc, comme ça, je ne serai plus obligé d'être en train de faire les rapports moi-même. Ou bien, par exemple, j'ai l'habitude de négocier avec mes fournisseurs. Il y a des étapes que je suis lorsque je vais négocier avec les fournisseurs. Il y a des critères que j'utilise lorsque je dois négocier avec les fournisseurs ou bien sélectionner des fournisseurs. Je mets ces étapes et ces critères à écrire pour mes collaborateurs. Donc, ensuite, je les envoie en négociation. Et puis, sur la base des étapes et des critères, ils négocient avec les fournisseurs. Ce qui fait que je ne suis plus obligé d'être là pour que le travail soit fait.
Ouais.
Quand je dois décortiquer en fait, mon génie pour les gentils, pour qu'ils puissent s'inspirer de ça, si une étape par étape pour moi, j'ai l'habitude de faire pour délivrer des tâches significatives, à partir de là, en se basant sur le schéma et le cadre, eux aussi, ils ne commencent pas à délivrer du résultat significatif. Naturellement, il faudra que je puisse les former, les coacher du système, pour qu'ils puissent le maîtriser. Et quand je vais faire ça, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose de très important que je dois faire, c'est que je dois m'habituer à ne pas faire les choses tout seul. Si je veux que les autres puissent le faire sans que je ne sois là, il faut que je m'assure que à chaque fois que je fais quoi que ce soit, j'ai les vêtements qui sont en train de copier, qui sont en train d'apprendre. Sinon, je vais rester le seul génie de mon entreprise, de mon business, et quand ce génie que je suis n'est pas là, ça ne marche pas. En plus de décortiquer le système pour les gens, pour que ce soit facile d'utilisation, pour que les résultats significatifs que moi-même j'ai produits soient duplicables, soient réplicables. Donc, quand je fais ça, je vais augmenter mes chances de commencer par mettre en place les bases d'un système solide, autonome, qui fasse que les gens puissent réussir sans moi. Imagine l'instant que je demande à un collaborateur de faire un travail et qu'il se cherche et qu'il n'arrive pas, il ne sait pas exactement comment il va faire pour moi produire. Je lui dis, est-ce que tu as le mari à côté de toi? Est-ce que tu as les étapes? Mais, ok, quelle étape tu viens de faire? Il me dit, est-ce que tu fais comment on a fait la dernière fois? Parce que, rappelle-toi, Corneille, il était avec moi la dernière fois qu'on a fait. Et ainsi de suite, lui prend la main du système, il maîtrise le procédé. Une fois qu'il a maîtrisé le procédé, je peux partir en vacances, je peux partir en Royal, je peux partir dans un autre pays, et avec sur la base du schéma RLC, il peut faire son travail. Mais par exemple, on a plusieurs filiales et parfois, nos collègues sont amenés à faire des séances de coaching avec des dirigeants de très haut niveau. Quand moi je fais des séances de coaching avec des dirigeants de très, très haut niveau, je modélise les séances de coaching. Donc, première étape, deuxième étape, première problématique, deuxième problématique. Et sur la base de ces différentes problématiques, j'élabore un schéma pour mes collègues. Et avant qu'un collègue n'aille faire une séance de coaching, je mets le schéma à sa disposition. En fonction des réalités qu'il a en face de lui, il voit comment il adapte le schéma à son interlocuteur. Et quand il finit la séance de coaching, waouh, qu'est-ce qui se passe, Corneille? La personne qui a coaché a l'impression qu'il a en face de lui le meilleur coach de HEC. Et c'est ainsi que nous faisons et qui fait que les gens peuvent coacher des dirigeants de haut niveau sans que ce ne soit forcément les premiers dirigeants de HEC Group qui sont en train de faire ces séances de coaching. Voilà. Et quand tu commences par faire ça, eh bien, tu peux naturellement t'exporter dans plusieurs pays, avoir des bases dans plusieurs villes sans avoir besoin d'être présent toi-même. Mais quand tu n'apportes pas cet accompagnement et cette facilitation, ce décortiquage de ton système, de ta formule de production du résultat significatif que tu mets à la disposition des gens pour qu'eux aussi puissent produire des résultats significatifs, donc tu as du mal à bâtir un système qui soit autonome et pérenne.
Ben c'est super. Voilà. Beaucoup de valeur ajoutée dans ce que tu viens de dire. Je retiens beaucoup qu'il y a la formation qui est indispensable, aussi le partage d'informations aussi dans le fait de bâtir un système autonome. Et nous allons aborder le troisième point pour terminer, qui est le défi du développement des leaders. Est-ce que tu peux développer sur ce point, s'il te plaît?
Absolument. Le défi du développement des leaders est très simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as bâti un système, effectivement, prenons le cas avec en fait, tu sais, les franchises sont basées sur la réplication du système.
Uh-huh.
D'accord? Oui. Prenons l'exemple. Plutôt le modèle du développement de leaders autonomes, c'est que on prend l'exemple, par exemple, d'un ibis en Afrique de l'Ouest. Quand tu prends un ibis Côte d'Ivoire, un ibis Sénégal, un ibis hôtel, bien sûr, Lomé ou Cotonou, on voit que le système est pratiquement le même, le service est pratiquement le même, les couleurs sont pratiquement les mêmes. Ça, c'est la réplication du système. Okay? Maintenant, la performance de Ibis Cotonou n'est pas celle de Ibis Dakar ou de celle de Ibis Abidjan, par exemple. Pourquoi ? Première chose, évidemment, il y a les réalités locales qui vont faire la différence, mais aussi il y a la capacité de ceux qui dirigent les différents Ibis à répliquer les bonnes pratiques Ibis. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Et donc, c'est là, en plus de répliquer le système, le simple fait de répliquer le système ne suffit pas. Il faut s'assurer que dans la gouvernance du système, il y ait des leaders autonomes capables de pouvoir maintenir le système, mais surtout améliorer et adapter le système pour continuer à produire des résultats significatifs. Parce que l'une des choses qui va se passer, lorsque tu bâtis une entreprise et que tu as bâti un système que tu as repliqué dans plusieurs pays, par exemple sous forme de franchise ou sous forme de filiale, l'une des choses qui arrive en général, c'est que la performance relative d'une filiale va dépendre de qui est la tête de la filiale. Mm-hmm. Donc, il faudra que tu passes du temps à développer des leaders autonomes, des leaders qui soient capables de prendre le système, de l'implémenter, de l'optimiser et même de l'améliorer et même de l'amener à produire des résultats plus significatifs que ce que toi tu as produit. Et c'est quand tu t'investis non seulement dans la capacité à détecter, mais la capacité à former, à coacher, à développer de nouveaux leaders qui poursuivent le système, qui perpétuent le système, même au cas où tu venais à mourir, que tu assures la durabilité et la pérennité de ton business. Ceci est vrai pour les grandes entreprises au niveau international, mais c'est également vrai pour tout entrepreneur, même au niveau africain, qui souhaite développer son entreprise à plusieurs échelles. L'une des choses qui fait la force du groupe NCA, c'est qu'ils ont mis en place un dispositif de management de la qualité. Donc, il fait que pratiquement toutes les filiales NCA au niveau assurance sont certifiées ISO. Donc, ce qui fait qu'il y a non seulement un effort qui a été fait pour que les mêmes normes et les mêmes critères soient respectés dans toutes les filières NCA, ce qui assure un niveau minimum de performance, d'assurance, ouais. Qualité, voilà, d'assurance qualité. Et un client qui est à NCA Benin ou à NCA Mali ou à NCA Guinée ou à NCA Sénégal ou à NCA Côte d'Ivoire a pratiquement le même rendu en termes de qualité de service. Naturellement, l'étape suivante va être la capacité à avoir des leaders de grande valeur à la tête de chacune des entreprises de sorte que ces leaders-là soient en mesure de perpétuer le système. Parce que le système peut être mis en place, mais il va être challengé par des concurrents, il va être challengé par de nouvelles normes, il va être challengé par de nouvelles exigences aux clients. Et c'est quand il y a d'autres leaders qui sont en mesure de perpétuer le système et de l'adapter, de le mettre à jour, de le mettre à niveau. Donc, on peut être sûr que même si le leader principal n'est pas là, ce système va continuer à performer, ce système va continuer à produire des résultats de façon significative et durable.
Mais en tout cas, j'apprécie vraiment toute la valeur ajoutée que tu as partagée. Ça permet de comprendre un peu plus l'importance de créer déjà un système autonome, l'importance de pouvoir se comparer non pas seulement à sa communauté ou à sa ville, mais se comparer à un niveau international, et aussi l'importance d'avoir des leaders qui non pas seulement permettent de maintenir un système, mais l'améliorer et même produire encore plus de résultats que les fondateurs initiaux du système, si j'ai bien compris.
Absolument, parce que à la fin de la journée, l'entreprise leader est celle qui contient en son sein le plus grand nombre de leaders. Et donc, non seulement je me bats en tant qu'entrepreneur pour produire, en tant que faisant partie des premiers fondateurs, pour produire des résultats significatifs, je bâtis le système, mais la chose que je dois m'empresser de faire, si je veux assurer la pérennité, c'est de démultiplier le nombre de leaders visionnaires comme moi au sein du système qui peuvent continuer à porter le rêve au-delà même de ce que moi-même j'avais pensé pouvoir et devoir faire.
Mais c'est super, c'est super. J'apprécie vraiment le partage qui est vraiment un partage de valeur, beaucoup de valeur ajoutée dans ce que tu as dit. Merci Herman pour tout ce partage. Dieu te bénisse et à très bientôt pour un nouveau podcast.
Merci beaucoup, Corneille. À très bientôt.
À très bientôt, Herman.